Triste nouvelle, c'est la crise pour les microbrasseries, pas juste au Québec, mais aussi en France. On parle de plus de 200 banqueroutes, ou en tout cas de plus de 200 processus de fin des opérations pour les brasseries en France. Au Québec aussi, ça brasse et ça brasse pas dans la bonne direction. On apprenait récemment 2 fermetures. Et puis, récemment, il y avait le cri de cœur qui avait été lancé par la brasserie à l'abri de la tempête. Pour parler de tout ça plus en profondeur, j'en parle avec l'une des principales intéressées, Anne-Marie Lachance, qui se trouve être l'une des cofondatrices de la microbrasserie À l'abri de la tempête. Vous écoutez Le temps d'une bière, un balado original québécois qui touche l'industrie de la bière, l'alcool en général et aussi la drogue. On regarde ça à travers un gars original qui touche à la culture, l'histoire, l'économie et la société en général.
C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la.
Anne-Marie Lachance, merci beaucoup d'être avec nous pour le temps d'une bière. On comprend que les temps sont pas faciles ces temps-ci. Première question pour toi, c'est comment ça va?
Très bonne question. Ça va bien. C'est sûr que ça va beaucoup dans un tourbillon là, depuis plusieurs semaines, mais ça va bien.
Ça va bien, le moral est bon, on tient le cap. Faisons le résumé des derniers événements. Il y a quelques jours à peine, vous lanciez un cri du cœur. Vous avez besoin d'une aide, et ça de façon urgente, pour éviter la banqueroute, ou plutôt pour préserver une microbrasserie qui est une institution au Québec.
Oui, c'est ça, à l'abri de la tempête. Ça fait 20 ans cette année là, qu'on est présent. Puis pour une région comme les Îles-de-la-Madeleine, c'est quand même un pôle économique majeur, un employeur majeur aussi. On fait partie des produits d'appel importants pour le tourisme aussi. Donc, une institution comme ça, c'est important de la préserver pour notre milieu.
Pour vous, à quel moment est-ce que ça a commencé à un peu chavirer?
Ben nous, en fait, c'est assez simple. Là, ça a commencé vraiment avec la pandémie. Donc, si je retourne un petit peu à l'avant de ça, en 2019, on avait fait des investissements majeurs pour doubler notre capacité de production puis agrandir l'usine. Donc, pendant les 15 premières années, on a géré toujours de la croissance et on était vraiment toujours en rupture de stock, incapable de répondre au marché. Donc, on était vraiment rendu à ce stade d'entreprise-là. Et est arrivée la pandémie, donc plutôt que de gérer de la croissance, il a fallu gérer une décroissance, mais avec un fardeau de dette beaucoup plus important. Donc ça, c'est le premier élément là qui a fait, pour reprendre ton jeu de mots, une tempête parfaite. Et suivi de ça, après la hausse des coûts de production, donc que ce soit lié aux matières premières, au transport, à la main-d'œuvre, donc il y a eu des hausses au-dessus de 20%. Ensuite de ça, avec la crise économique qu'on vit, ben les gens ont un pouvoir d'achat beaucoup moins grand qu'avant. Donc ça, c'est un élément majeur aussi. Et dernièrement, cet été, une sortie mouvementée de chez Transbrew, il a fallu se relocaliser en plein mois de juillet. On sait que le mois de juillet pour la vente de bière, c'est quand même des mois importants. Donc, on s'est relocalisé en plein mois de juillet, reprise de la liste de la facturation de tout ce volet-là là, qu'on ne faisait pas. Donc, réorganisation interne. Fait qu'en 3 ans, là, c'est beaucoup d'éléments qui se sont succédés qui ont fait que là, ben, on était au bout de nos ressources.
Et puis, parle-nous un peu de votre décision récemment que vous avez prise. Ça doit être une discussion, premièrement, ça doit être une discussion au sein de l'équipe qui est pénible, qui est difficile, même si on admet qu'elle est nécessaire. Puis après ça, comment est-ce qu'on passe du constat à l'appel public? C'est quand même quelque chose d'avoir à dire à tout le monde. Écoutez, on a besoin de votre aide là parce qu'on frise des gros problèmes.
Oui. C'est sûr que le constat... Nous, on le connaît depuis un moment. Là. C'est sûr que ça fait plusieurs mois que je jongle avec ça, puis qu'on essaie de trouver des ententes, des portes de sortie. Les créanciers actuels ont été quand même assez, je dirais, tolérants et aidants, mais là, on était rendu vraiment à faire cette sortie-là. C'est pas facile de faire, effectivement, mais en même temps, j'ai toujours été très transparente, moi, quand j'ai, depuis que je suis en affaires. Donc, pour moi, ça allait de soi que je devais en parler, ne serait-ce que pour la communauté des îles. Puis, je suis convaincue, t'sais, une fois que tu as fait le tour de ton réseau, t'sais, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, à un moment donné, ça va débloquer sur une aide. On s'entend toutes là que les îles de la Madeleine, la population le dit, les élus l'ont dit, les gens du milieu le disent, ça se peut pas que la microbrasserie soit plus là. Donc, en le disant, c'est pour ne pas arriver aussi à un point de non-retour, puis quelqu'un dise, ben, avoir su, on aurait pu vous aider, t'sais. Donc là, ben, c'est su. Alors, ceux qui peuvent aider-nous, ça a créé vraiment un mouvement vraiment impressionnant. Je m'attendais à un bel accueil, mais à ce point-là, ça a été vraiment touchant, là, tant au niveau de la communauté ici aux îles, mais à l'extérieur aussi, on s'en est fait parler beaucoup. Ça a créé vraiment un mouvement. Là, les gens sont plus en phase exploratoire en ce moment. J'ai des appels, il y a des gens qui prennent l'information sur comment ils peuvent nous aider. Mais c'est vraiment ça qu'on voulait faire, là, venir créer un mouvement pour pouvoir régler cet enjeu-là, qui est urgent, effectivement.
J'ai suivi un peu l'engouement général pour aider, mais surtout pour partager votre message. J'ai vu beaucoup de photos sur Instagram, notamment de vos bières avec quelqu'un qui dit, voilà, il faut la boire pour la sauver. Et j'ai trouvé ça très beau, très noble aussi. Et puis là, évidemment, la question qui se pose, il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez déjà reçu de l'argent du gouvernement? Est-ce que c'est même envisageable un prêt ou plutôt même une subvention carrément du gouvernement pour sauver une microbrasserie, surtout dans la mesure où est-ce que c'est un peu une institution?
Non, c'est pas une voie qui est possible. Il y a aucun programme là. Quand tu es rendu à l'aide au fonds de roulement, c'est très difficile là, de te faire financer. On a eu souvent de l'aide là, pour des équipements, des projets, des choses comme ça, mais quand c'est vraiment lié au fonds de roulement, c'est beaucoup plus difficile. Et rendu au point où on était, c'était surtout pas assez rapide.
La distribution aussi, ça coûte très cher et ça me fait penser, pour vraiment permettre aux gens de comprendre c'est quoi votre contexte très spécifique, pouvez-vous, je m'excuse de vous voyez comme ça, peux-tu me donner une idée des coûts de production puis de comment ça a changé avec la pandémie?
Ben, c'est sûr que les coûts de production, ils ont monté en flèche, là. Comme je disais, ça a monté au moins de 20%, ne serait-ce que pour les matières premières, pour le transport, le carton. Donc, c'est pour ça qu'on a abandonné aussi le format de la bouteille, parce que là, ça devenait vraiment trop coûteux. Et le suremballage aussi, on a fait une étude aussi environnementale qui nous disait que la canette, pour le milieu insulaire, était un contenant beaucoup plus écologique
Ah
à
oui.
prôner que la bouteille. Donc ça m'a étonnée parce que, veux, veux pas, je misais beaucoup sur la bouteille à cause de son remplissage multiple, mais avec les allers-retours de bateau et tout ça, effectivement, c'est logique. Et au niveau des coûts, ben c'est beaucoup plus léger à transporter. Ça, on va voir des retombées là-dessus assez rapidement, là, parce que t'sais, sur la bouteille, c'était les plus du deux tiers étaient du transport.
Plus du deux tiers était de transport. Ben
Incluant
justement,
la distribution, le distributeur et tout ça.
quand je suis allé me procurer votre caisse de 6 au dépanneur Rapido à Gatineau, bonjour à Sandra, je me demandais, mais comment ils font pour les bouteilles? On a plein de difficultés de nettoyage de bouteilles avec une compagnie qui a fermé ses portes. Ça doit être extrêmement cher. Vous ne faites pas de bouteilles sur place, je présume.
Non,
Est-ce que
le
je me trompe?
lavage ne se fait pas là. Nous, on était avec l'usine à Saint-Bruno. Donc, ce
OK.
n'était pas un enjeu pour nous, la fermeture de l'usine à Québec, là,
OK.
parce qu'on était à Saint-Bruno. Mais c'est étant les seuls en bouteille, ça devenait difficile, ne serait-ce que d'avoir accès aux tablettes, mais aussi
Oui.
tout ce qui est l'approvisionnement alentour, tu sais, le carton, tout ça. Comme il n'y a plus personne qui utilisait ce format-là, ben là, c'était beaucoup plus coûteux.
Oui.
De pouvoir faire ces formats-là.
Oui, tout à fait. Puis après ça, il y a aussi la complexité d'exporter à partir des îles de la Madeleine. Vous êtes à combien de kilomètres, mettons, de Québec par bateau?
Ben, en fait, le bateau, il utilise deux voies, là. C'est soit qu'il se rend jusqu'à l'île du Prince-Édouard, puis ensuite c'est par camion. Là, c'est
OK.
1000 kilomètres. Ou sinon, le bateau se rend directement à Montréal.
OK.
Mais nous, ça prend le chemin de l'île du Prince-Édouard et ensuite camion.
C'est des longs kilométrages là, c'est une très longue route.
Oui. Donc, c'est sûr que on a ça qui est comme plus coûteux dans notre façon de fonctionner, autant pour ce qu'on fait venir aux îles là, dans nos intrants. C'est quelque chose qu'on a eu à gérer depuis 20 ans. Ça fait partie de notre façon de faire. Ouais.
Mais justement, je pense que vous êtes un bon exemple d'une microbrasserie qui est en plein cœur de son propre terroir, qui l'habite et qui puise goulûment, sans trop exagérer sur le côté poétique. Parle-nous un peu de votre approche. Comment est-ce que vous embouteillez les îles de la Madeleine? J'ai pas eu le temps de dévorer l'étiquette de la bière que je déguste parce que je me disais que tu allais pouvoir le faire à ma place.
En fait, la façon dont on travaille le terroir varie selon la recette. Donc, il peut avoir, oui, des intrants locaux. Donc, on fait beaucoup de maillage avec des producteurs d'ici. On fait beaucoup de cueillettes d'intrants aussi. Mais on y va aussi avec c'est pas juste le terroir, mais c'est aussi l'histoire ou bien la vibe des îles de la Madeleine. Donc, c'est un peu tout ça aussi qu'on essaye de mettre en valeur. Chaque bière a sa personnalité, si vous voulez, qui parle d'un petit côté des îles différent. Donc, l'écume, c'est notre bière ambassadrice, si vous voulez. C'est la première qu'on a brassée il y a 20 ans et qu'on fait toujours. Donc, c'est une pilsner vraiment, petit côté salin. Donc oui, on met sur le grain, mais c'est une bière très très équilibrée, mais avec le petit côté rustique et salin. Donc les îles, c'est ça aussi, c'est un paysage qui est magnifique, mais qui demeure assez rustique aussi, là.
C'est pas juste une page d'histoire, cette bière-là, c'est aussi une page du livre de photos des îles de la Madeleine.
Oui.
Et puis moi, ben, je suis un fan du côté pils rustique. Tu sais, une pils classique, conventionnelle, avec un léger petit twist. C'est déjà assez difficile de brasser une bonne pilsner. Brasser une bonne pilsner avec le petit twist qui est juste un petit peu différent pour te sortir de ta catégorie de base, mais sans trop pour gâcher le tout parce qu'on sait que c'est une bière nue et que c'est facile à gâcher.
Tout à fait, c'est dans les plus difficiles à brasser, justement.
Et là, vous êtes aux îles de la Madeleine. Tu me parlais un peu plus tôt de l'accueil chaleureux qui vous a fait un grand plaisir, un grand bien aussi. Je pense que sitôt que vous avez fait l'annonce sur les réseaux sociaux, le bar était plein là, aux îles de la Madeleine. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est sûr que oui, depuis ce temps-là, il y a vraiment un engouement. Les 5 à 7 vont toujours bien, mais là, on voyait qu'il y avait une affluence beaucoup plus importante là, dès le vendredi passé. Puis, spontanément, là, une initiative de quelqu'un ici dans la population qui a demandé aux gens de se rassembler ici mardi dernier pour justement nous soutenir, puis que tout le monde puisse être rassemblé. Et là, c'était plein à craquer. Donc, c'était vraiment touchant que les gens se soient déplacés pour ça. Et même encore ce soir, là, tu sais, c'est un mouvement qui continue, là. C'est ça aussi qui est intéressant. Puis même les gens de l'extérieur, ben comme tu le disais, ils ont envoyé des photos, ils partagent nos publications, puis ils disent, ben moi, je suis allé en acheter. Donc, on sent vraiment, ça, en tout cas, ça donne une méchante dose d'énergie pour continuer d'avancer, là.
Influenceurs et influenceuses et créateurs de contenu d'Instagram et de TikTok, unissez-vous. C'est le temps d'y aller pour une bonne cause, puis d'envoyer des photos à l'abri de la tempête, puis de vous en train de boire une de leurs bières un peu partout sur les réseaux sociaux. Go! Avengers Assemble! Mais parlons un petit peu des îles de la Madeleine. Là-bas, on s'entend que, ben, je veux dire, par chez vous, le tourisme, c'est important. Il y a quoi comme proportion à peu près de vos usagers, de vos clients qui sont issus du tourisme?
Ben, il y en a quand même beaucoup dans le sens que nous, notre haute saison, c'est comme de mai à octobre. Et le total du volume écoulé sur les îles, c'est 65 % du volume produit qui s'écoule sur les îles. Et c'est
OK.
35 % qu'on envoie sur le continent. Donc, c'est quand même assez majeur. Oui, les gens des îles l'ont adopté et la consomment à l'année, mais ça demeure que c'est 11 000 personnes là, qui sont sur les îles. Donc, l'apport touristique est vraiment important, là. C'est ce qui donne vraiment
Ouais.
le gros boom, là, effectivement, oui.
Puis comment on a ressenti ça, les effets de la pandémie aux îles de la Madeleine?
C'était assez spécial. C'est sûr que j'ai pas d'autres référents de d'autres pandémies, là. C'est notre première,
Moi non plus,
mais
on est nouveau là-dedans, là. On est dans le même bateau.
probablement pas la dernière, mais on espère en tout cas. Bref, c'est un peu spécial parce qu'on est sur une île. Donc jusqu'à la fin juin, on savait même pas si l'île allait ouvrir.
Ah, parce que l'île avait été fermée, moi je savais pas ça.
Ben, sans être fermé, les gens pouvaient pas voyager ou se déplacer
Ouais,
de
ben oui.
région en région. Nous, on était encerclés aussi. Le Nouveau-Brunswick avait fermé aussi. Donc, même si on était ouvert, les gens pouvaient pas se rendre. Donc, tu sais, on l'a su autour de la mi-juin si on allait pouvoir accueillir des gens ou pas. C'est que ça, c'est vraiment spécial de ça. Puis en plus, au niveau de la production, ben nous, évidemment, on avait arrêté de produire quand on a su la pandémie. Puis on dit, bon, ben si l'été, on n'a pas de visiteurs. Finalement, on en a eu. L'été suivant, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus que ce qu'on est habitué. Puis là, ben on revient à une certaine stabilité. Mais c'est surtout devant toutes ces fallait réagir vraiment en temps réel là, parce que c'était difficile de prévoir. Fait
Ouais.
que c'était surtout de se sentir isolé aussi, là, parce que, comme je disais, il fallait traverser deux provinces où on était presque comme des parias, là, quand tu travailles. Fallait pas que tu arrêtes ni mettre de l'essence, ni au dépanneur,
Oui,
ni.
oui, oui.
C'était ça,
Exister
là.
en dehors de chez soi
Fallait
pendant une certaine
presque aller
période,
incognito.
c'était. Ouais, c'était comme un défi posé à l'univers d'exister en dehors de chez soi, avec ou sans masque, pendant à peu près un an.
C'était irréel,
Très surréaliste. On se sentait un peu comme dans un film de science-fiction, de dystopie à mauvais budget.
ouais. Tout à fait.
Mais vous avez quand même traversé cette période-là. Et puis là, on arrive à un moment critique. Et il semble que ce ne soit pas juste vous. Quand je parle aux brasseurs, les gens me disent en privé des choses différentes de ce qu'ils me disent en public. C'est-à-dire, et ça c'est en toute candeur, vraiment, ça va plutôt mal. La hausse des prix des ingrédients est assez importante. Parfois, ça monte jusqu'à 40 % le prix du houblon. La main-d'œuvre est plus rare, mais elle est aussi plus chère. Il y a aussi un certain abandon des amateurs de la microbrasserie. Il y a moins de gens qui sont prêts à payer plus cher pour une bonne bière. Et ceux qui sont prêts à payer plus cher sur une bonne bière se replient sur trois ou quatre microbrasseries qu'ils connaissent déjà. Fait que ça va très mal pour les nouvelles microbrasseries. Moi, je me pose la question, peut-on dire que les microbrasseries sont dans une crise.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une crise. Maintenant, c'est sûr, c'est une crise qui a été accélérée. Je pense on pouvait la voir venir quand même là, avec l'explosion là, de l'offre. Sauf qu'elle a été justement accélérée là, par tous ces facteurs-là. Mais oui, définitivement. Puis la façon dont on faisait des affaires en 2019 n'est plus. Faut aussi arrêter de penser que ça va revenir. On est ailleurs. C'est vraiment.
Tu veux dire, il faut pas pêcher par optimisme.
Ben, c'est pas tant par optimisme, c'est juste une façon. On peut pas revenir en arrière. T'sais, la pandémie a changé beaucoup de choses, puis maintenant,
Ouais.
faut vivre avec ces choses-là qui ont changé. Donc, il faut changer nos modèles d'affaires, faut changer notre approche, faut changer nos ambitions. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller, selon moi, pour y arriver. La bière existe depuis toujours, puis elle va exister toujours, là. Moi, je pense qu'on est, oui, on est dans un creux de vague, mais ça va revenir.
Ouais.
Donc, il y a des modes qui vont, qui viennent, qui passent, qui en ce moment peuvent nous faire mal un peu, mais je veux dire, la bière est là pour rester, là.
Effectivement, la bière est là pour rester. On parle de consommation d'alcool par adulte en diminution au Canada. Ce qu'on voit par contre, c'est des gens qui sont plus soucieux de mettre leur argent dans ce qui coûte moins cher, ce qui est parfaitement compréhensible parce que on vit dépendamment de quel économiste on écoute, soit dans une période de récession, soit dans une période qui est proche de la récession. En tout cas, tout le monde pense à son argent beaucoup plus qu'avant parce que la belle année de la première année de la pandémie, c'est fini. Après ça, 2023 a été catastrophique pour les brasseries, non?
Oui, tout à fait. Ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'on peut plus. Avant, on pouvait tout planifier. C'était très prévisible, les demandes. C'était assez facile de faire une planification de production. En ce moment, c'est à peu près impossible de le faire de façon précise depuis 3 ans, depuis la pandémie, effectivement. Parce que le marché est en transformation. Donc, tu penses aller dans une voie, finalement, ça va dans l'autre. C'est beaucoup plus d'incertitude. Fait qu'il y a ce côté-là aussi où on doit être plus réactif. Pas planifier trop d'avance, mais se donner le plus de réactivité possible. C'est sûr que là, les gens ont beaucoup plus d'offres qu'avant, que ce soit au niveau de la bière ou tout autre produit alcoolisé. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait. D'un moment donné, les alcools sucrés qui goûtent rien, les gens vont se tanner.
Les modèles hybrides,
Ben,
pour le dire poliment, on dit les modèles hybrides.
c'est ça. Je cherchais mes mots, là, mais bon. Mais c'est ça, je crois fermement que la bière, le marché est en évolution. Les bières de microbrasserie vont rester. C'est juste que là, quel créneau on va prendre dans l'avenir, c'est une période d'incertitude. Puis évidemment, malheureusement, c'est pas tout le monde qui va être capable de vivre cette période d'incertitude-là, là. Nous, tout ce qu'on espère, c'est on croise les doigts puis on espère pouvoir traverser cette crise-là pour demeurer notre 20 ans.
C'est quoi un compromis réaliste pour vous dans vos circonstances? J'ai vu le message, j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai vu ton entretien avec Léo de Baron Mag aujourd'hui et je me demande, sachant que vous allez devoir faire des sacrifices, ne serait-ce que pour suivre le marché, sachant qu'il n'y a pas de monde idéal, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter comme solution?
Ben, nous, la façon dont on retravaille le modèle d'affaires, c'est un peu revenir à notre ADN première, là. Donc, on produit un petit peu plus niché, baisser le volume de production plutôt que de l'augmenter. Notre marché local a toujours été le plus fort, donc celui-là, on continue à en prendre soin comme on le faisait, mais on va aborder le continent d'une autre façon. Au lieu de vouloir être le plus d'endroits possible, on va choisir des endroits ciblés dans un étalement géographique un peu plus réfléchi, puis aller recréer une proximité avec ces gens-là, ce qu'on n'a jamais nécessairement fait, parce qu'avant, on fournissait pas. Donc, je fournissais mon marché local, puis j'envoyais ce qui restait à l'extérieur. J'avais pas à faire de mise en marché ou de. Mais là, on a une approche qui est différente, puis créer des liens beaucoup plus forts aussi, autant avec les détaillants qu'avec les clients de l'extérieur, là. C'est ça, c'est se rapprocher de son client. Il faut revenir aux sources.
Retour aux sources, c'est aussi ce que j'entends dans mes conversations avec les autres brasseries. On me dit l'avenir est local. Et puis ça vient de tous bords, tous côtés, ce qui me fait penser que c'est pas n'importe quoi, dans le sens que c'est là où est-ce qu'on a des racines, là où est-ce qu'on a le voisin qui revient de façon récurrente, qui vous a choisi comme point de ralliement, comme dans le temps, il y avait la caverne ou le saloon, où est-ce que les gens, c'était sur leur chemin, puis c'était là qu'ils faisaient un paquet d'activités sociales. Vous êtes dans la situation particulière que vous êtes littéralement une institution, mais je pense que vous êtes la seule microbrasserie aux Îles-de-la-Madeleine. Est-ce que je me trompe?
Oui, on est la seule. Effectivement, c'est ça. Puis, fait que nous, on vit un peu deux réalités, mais cette réalité-là où il y a un fort accueil là, de gens de l'extérieur, puis ces gens-là, ben, ils veulent répéter l'expérience une fois sur le continent. Ils veulent se remémorer les îles. Ils veulent. C'est un coup de cœur quand les gens viennent ici. Donc, t'sais, oui, nos bières sont excellentes, mais il y a aussi le souvenir qui est rattaché, la vibe que tu as vécue. Ben, les gens en ville nous écrivent souvent là, oh, j'étais vraiment contente de redécouvrir l'écume parce que je me souviens cet été, etc. Donc c'est ça aussi. Donc c'est un peu ce qu'on va chercher aussi à l'extérieur.
L'écume, une brise de nostalgie. Un verre de voyagement, un séjour dans la mer. Bon, bref, un peu de poésie. Mais revenons-en aux suites de votre annonce récemment. Il doit y avoir des gens qui vous ont approché pour commencer à débuter de faire des offres.
Oui, il y a eu beaucoup d'explorations cette semaine, beaucoup de questions. Là, je commence à avoir des rencontres plus sérieuses depuis hier. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment espoir qu'on puisse arriver à des ententes là dans le courant du mois de mars. Là. Mais là, on est au début de discussions là, un petit peu plus.
Trop tôt pour le dire, là. Ça n'a pas assez fermenté.
Non, c'est ça. Il faut que ça fermente encore un peu. Mais c'est sûr qu'on va faire une mise à jour là, sur nos réseaux sociaux quand on va avoir sécurisé la période estivale.
Une question que je pense que bien des gens se demanderaient, c'est considérez-vous l'option d'être acheté?
C'est pas... Tu sais, notre besoin est en deux temps. Le premier besoin, comme je dis, c'est de sécuriser la période estivale pour que moi, ça m'achète un laps de temps après pour travailler la structure financière qui va être vraiment plus solide là, pour l'avenir de la microbrasserie. Dans ce deuxième scénario-là, je suis ouverte à tout. Je ne repousse rien comme idée pour le moment, mais c'est pas le but premier. T'sais, nous ici, on a une belle équipe, une équipe qui est vraiment motivée, solide et prête à rester en place. Donc, après, l'important, c'est que la microbrasserie ait une pérennité dans le temps. Donc, je veux pas rien exclure. L'important aussi, c'est surtout qu'il y ait un match de valeur, quelqu'un qui respecte l'entité qu'on est. D'arriver pour dénaturer à l'abri de la tempête, c'est pas à tout prix, dans le sens que si je veux qu'il y ait une pérennité, il va falloir que ça soit dans l'alignement des valeurs.
Ouais, je comprends ça a beaucoup de sens. Ce que tu me dis, c'est que pour l'instant, on est dans l'urgence, après ça, on va penser long terme, fait que chaque chose en son temps.
Oui, puis on va prendre la meilleure décision pour la pérennité de l'entreprise après. Est-ce que ce sera ça, est-ce que ce sera une réouverture d'action, est-ce que ce sera une création de coop? Tous les scénarios sont sur la table, puis il y a quelque chose à un moment donné qui va faire du sens, qui va dire, ben c'est vers ça qu'il faut aller, parce que c'est ça qui va assurer la longévité. C'est ça qui est important.
Oui, ben absolument. Vous avez tellement mis d'efforts, de passion, d'énergie, puis d'amour aussi dans cette brasserie. Ouais. Mais là, vous êtes aux Îles-de-la-Madeleine. Je le répète, c'est vraiment beau les Îles-de-la-Madeleine. J'ai pas eu la chance d'y aller. Mais là, maintenant, il faut que tu nous aides à t'aider. Il faut que tu vendes les Îles-de-la-Madeleine.
Oui.
C'est quoi ton message de 45 secondes? Tu as le droit de prendre plus que 45 secondes pour vendre les Îles-de-la-Madeleine aux gens qui sont jamais allés. Go!
Bien, les Îles-de-la-Madeleine, il faut y venir pour comprendre ce que c'est, parce que c'est une expérience, c'est un coup de cœur, ça se passe dans le cœur. Oui, il y a des belles plages, il y a 300 km de plage, on s'entend, qu'à chaque jour, tu peux changer de plage, puis si tu mets ta serviette à côté de celle de ton de quelqu'un, c'est parce que tu veux vraiment y parler, là. Parce que tu peux vraiment avoir la paix aux Îles-de-la-Madeleine.
Je prends des notes.
donc, c'est à couper le souffle. Moi, ce qui m'a attiré ici, il m'a gardé ici, c'est l'horizon à perte de vue aussi. Tu vois pas l'autre bord là. Tu es en plein milieu là, du golfe, là, donc tu vois pas l'autre bord. Tu respires. Oui, il vente, mais c'est un vent qui est pas agressant. C'est juste que tu as de l'air. Quand j'arrive en ville, je manque d'air. Ici, tu en as plein poumon. La vie est quand même douce. T'sais. Quand tu as fini de travailler, oui, chacun dans son travail vit son stress, mais c'est toi qui es stressé. C'est pas alentour de toi. Donc, dès que tu sors, tu vas te mettre les pieds dans le sable. Toute la pression redescend. Fait que c'est comme si vous venez aux îles, faut prendre le temps de vivre les îles. Si vous faites un marathon d'aller voir plein de choses et d'être à bout, c'est pas ça. Faut prendre le temps de vivre le moment présent puis dire bon ben aujourd'hui avec la vibe la journée mon activité ça ce sera ça. C'est de prendre son temps.
Prendre son temps. J'essaie d'imaginer ce serait quoi ma vie de travailler sur une des îles, puis après ça, de finir le travail, puis d'aller mettre directement les pieds dans le sable, puis de contempler l'infini comme ça.
C'est merveilleux. À 6h, 6h30, tu peux être sur la plage avec ton souper, les pieds dans l'eau, tu vas faire une saucette. Ou juste, tu vas te baigner, ça te dure 10 minutes, tu reviens chez vous. Tu as l'impression de ne pas avoir travaillé de la journée. T'sais. Même si l'été, nous, c'est une grosse période de travail, j'ai pas de vacances, mais j'arrive quand même à profiter de mon été puis à sentir que j'ai eu des vacances parce que par ces petits bouts-là de journée, tu viens complètement te réénergiser, là.
C'est ça qui est difficile à partager vraiment. C'est précisément le genre d'expérience qu'il faut vivre pour vraiment bien comprendre. Mais la question que tout le monde se pose, c'est toi là, est-ce que tu réussis à aller te tremper les pieds dans l'eau à chaque jour?
L'été, oui.
Ah oui,
Oui, tous les soirs, je vais
très
me
bien,
baigner.
très
Puis
bien.
il y a même un courant en ce moment où tout le monde se baigne l'hiver, là. Donc,
Ah oui.
oui, il y a un
Ben, on n'a pas eu d'hiver au Québec, on n'a pas eu d'hiver.
Les baigneuses de la Grave se baignent tous les matins à l'année longue et on les voyait tasser les blocs de glace pour aller se baigner. Donc, on se baigne à l'année. Il y a du surf qui se fait même l'hiver. Les gens profitent de l'eau, peu importe la température.
Je trouve ça farouchement impressionnant de se baigner l'hiver dans l'eau. J'ai commencé moi-même les cold baths,
Oui.
c'est les trucs là pour booster son système immunitaire. C'est quelque chose de rester dans de l'eau à moins de 5 degrés pendant plus que 3 minutes.
Oui, la dernière fois, je le fais pas souvent l'hiver, mais je l'ai fait dernièrement aussi. Puis la mer était pas gelée encore comme une slush. Fait que là, tu
Ouais,
te baignes
OK.
là-dedans, tu dis, OK, il fait comme froid, elle est sur le bord d'être gelée, mais
Effectivement.
étrangement, le choc est pas si grand, là. Puis tu sors de là, tu te sens tellement bien.
Oui, c'est extrêmement apaisant. Ça met le système immunitaire en mode survie, puis ça élimine pas mal de stress, apparemment, parce que le corps se concentre sur l'immédiat. Puis comme par hasard, après ça, tu sens un peu d'euphorie, parce que ton corps est obligé d'utiliser ses ressources d'urgence pour se réchauffer. Puis ça marche, mais évidemment, ça ne veut pas dire que les gens doivent essayer d'aller nager pendant 1 heure. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, non, c'est des petits bains rapides.
Dernière question pour toi. Je sais que pour vous aider, acheter vos bières, c'est sûr que ça va aider. Qu'est-ce que les gens peuvent faire d'autre pour vous aider à faire face à cette situation? Tu vois, là, j'ai pas fait de jeu de mots.
Oui,
Je me suis
bravo.
retenu.
Ben, en fait, la façon la plus directe de nous aider autre que d'aller acheter les produits, ça c'est sûr que c'est la façon privilégiée, mais de partager notre situation, notre message à vos contacts, de partager les publications aussi, de rendre l'image de marque là, vivante, ça c'est ce qui peut nous aider le plus. Puis comme je disais, ben la façon dont on va se sortir et consolider notre modèle, c'est justement par contact élargi. C'est vraiment pour ça qu'on a fait cet appel-là aussi, là.
Et moi, je lance un concours avec un prix encore indéterminé. Celui ou celle ou ceux ou ceuse qui nous envoie la meilleure photo de eux en train de prendre une de vos bières va se mériter un prix qui reste encore déterminé. Donc, le concours est lancé. Pour vous aider, on va afficher les bières qui nous sont envoyées sur la page Facebook du Dans une bière. Exactement. Puis on va essayer de faire une belle ribambelle de photos. Tout ça pour bien commencer la saison.
Je te laisserai décider le choix de la photo la plus créative. Puis moi, je m'engage à faire parvenir à ces personnes-là une boîte surprise des îles La Madeleine.
Ah bon, ben le concours est lancé. Boîte surprise des îles La Madeleine pour la personne qui aura gagné mon concours de eux en train de boire une de vos bières. Donc, vous avez compris, ratez pas cette occasion unique de faire une belle action pour soutenir un monde brassicole de plus en plus en difficulté, mais surtout une institution joyeuse, même perle des îles de la Madeleine, qui, comme vous aurez compris, vaut nécessairement le détour. C'est un cas où est-ce que la distance est une valeur ajoutée et pas le contraire. Anne-Marie, ça a été un grand plaisir de jaser avec toi. On te souhaite, toi et l'équipe, tout le meilleur et le meilleur des redressements économiques, sociaux et mentaux pour l'année 2024.
Merci infiniment, c'est vraiment un plaisir d'être là.
Ça a été un plaisir de prendre le temps d'une bière, littéralement, avec toi.
Merci beaucoup.